Sujet peut-être de circonstance ce matin, les vacances. C'est les jeux congés de la construction qui débutent officiellement demain matin ou ce soir minuit, qu'au choix. Mais je pense que ça a commencé déjà vendredi sur la route. Pour nous, les vacances, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi j'ai souvenance de vacances où on prenait la route, les routes étaient parfois longues. Et je me souviens, il y a un certain temps, quand je suis venu au Seigneur, les premières fois qu'on est parti en vacances, on a pris les autoroutes en France, mais c'était légèrement bouchonné, congestionné, dirions-nous ici. Et finalement, on a quitté l'autoroute et on est passé par les petites routes. Et les petites routes, parfois, c'est pas toujours le plus agréable qui soit. Il y a des trous, Enfin, ce n'est pas les très belles routes. Imaginez un peu Saint-Félicien-Fermont. Saint-Félicien, Bécomo, ça va, Bécomo, Manic 5, ça va, mais après Manic 5, c'est pas exactement de la belle route. Alors, imaginez un petit peu, vous êtes quelques siècles en arrière, mettons une vingtaine de siècles en arrière, vous faites, allez, on va dire, un trou, c'est bien, ça commence bien. Vous allez de Nazareth à Jérusalem. On s'entend à l'époque qu'il n'y a pas de voiture. Hein. Il n'y a pas de chevaux non plus. Les chevaux, c'est pour les Romains. Ils ont tout réquisitionné. Donc, vous devez aller à Jérusalem. Allez, on va simplifier le débat. Ça fait environ 150 km à pied. Est-ce que les routes sont goudronnées, d'après vous ?
Non.
Elles ressemblent un petit peu à la route de Manic 5 Fermont. Elles sont un peu moins larges. Ce n'est pas agréable de faire de la route. Mais au moins, vous savez que vous allez arriver quelque part à Jérusalem, et c'est une contrée qui est relativement protégée par les Romains. Mais imaginez, vous reculez encore de 4-5 siècles en arrière. Vous êtes un juif, vous désirez aller à Jérusalem. Oh, merci. Ça s'entendait déjà. Et quelque part, vous étiez juif, vous deviez aller à Jérusalem, mais vous habitiez cette fois-ci pas en Galilée, mais vous habitiez un peu plus loin. Et on va voir où vous habitiez. On va faire un petit voyage du pèlerin ce matin. Non, toi, il ne veut pas avancer. Tu sais quoi, ça ? Bon, voilà, on va le faire avancer à la masse, puisqu'il ne veut pas avancer lui-même. Il n'est pas obéissant. Bon. Il est en vacances, lui aussi. Un ordinateur en vacances, ça commence bien. J'aime les ordinateurs, mais ils ne sont pas prévus pour être en vacances. Ils sont prévus pour obéir. Ah, c'est passé là-bas ? Oui. On va faire un petit voyage chez les pèlerins. Ça doit tout de suite vous ramener, vous penser à quelque chose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les psaumes. Et ce matin, on a commencé dans les psaumes, ne serait-ce que le verset d'introduction était un psaume. Le verset qu'on a chanté pour les enfants, c'était issu des psaumes. Et je vous invite à aller dans les psaumes des degrés. Mais il ne veut toujours pas aller là, donc on va le faire. Ah. Alors on va commencer au psaume 120. C'est le premier des psaumes des degrés. Alors j'ai une Bible qui est doublement bénie ce matin parce que j'ai laissé la mienne chez Richard et Esther, donc j'ai emprunté celle de votre pasteur. Donc, écoutez, on a bien de la chance ce matin. Psaume 120, on va prendre simplement le premier verset. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. » Premier psaume, premier verset du psaume 120, premier psaume des degrés. Psaume 121, les textes que j'affiche sont dans la version second 21, d'accord ? Psaume 121, les deux premiers versets. « Je lève mes yeux vers les montagnes, texte que l'on connaît bien, un chant que l'on connaît bien. Et la question, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 122, cantique de joie de la part de David, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ah, il obéit. Il a eu peur. Bon, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Le voyageur qui va à Jérusalem garde les yeux fixés vers Dieu comme un serviteur garde les yeux fixés vers son maître. Nous sommes les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à ce que notre maître, notre Dieu Tout-Puissant, nous disent quoi faire. Nous attendons à lui comme un serviteur s'attend à son maître. Il lui fait confiance. Psaume 124. Que dire de celui-là ? Sans l'Éternel, qui nous protégera ? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégera ? On a donc sur les quatre premiers psaumes de Gray des textes importants qui nous disent, et ces psaumes, on va en parler dans quelques instants, on va s'incliner dans la prière pour remettre ce temps à notre Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as choisi ton peuple Israël, qui nous a choisi, nous, ton Église, Seigneur, comme ta fiancée, nous voulons ce matin nous incliner devant ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous parle, qu'il nous enseigne ce matin, qu'il nous bénisse, mais surtout, Seigneur, qu'il nous rapproche de toi. Qu'il nous fasse faire un pas de plus vers toi, Seigneur. Et c'est là ma prière, pour moi le premier, Seigneur, et pour mes frères et sœurs ici réunis ce matin. Que toute gloire te revienne, Seigneur, et que ton esprit nous illumine. Amen. Ces psaumes des degrés, je pense que vous le savez tous, mais bon, il est bon de se le rappeler, c'était des psaumes, des chants que les Juifs chantaient en se rendant à Jérusalem pour les trois fêtes solennelles que Dieu avait décidées dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Il leur a dit, vous devrez vous rendre à Jérusalem pour ces trois fêtes. C'est un ordre, ce n'est pas une option, c'est un ordre qu'il leur avait donné, une sainte convocation, dit-il. Ils devaient se rendre pour la fête des pains sans levain qui amenait à la fête de Pâques à Pessah, pour la deuxième fête qui était la Pentecôte, 50 jours plus tard, et pour la troisième convocation qui était la fête des récoltes, la fête des tabernacles, ce qu'on appelle aussi la fête des huttes. Et si vous voyagez un peu à Montréal, dans le quartier des Juifs hassidiques, vous verrez, sur leur balcon, ils reconstruisent des huttes avec des feuilles sur leur balcon. Pour revenir à l'époque, tu en as vu, vous en avez vu quand vous étiez à Montréal, pour cette fête des huttes. Donc trois saintes convocations où tous les Juifs étaient convoqués à Jérusalem pour aller adorer le Seigneur. Alors quand vous habitez Béthanie, comme le Seigneur, là où habitaient Marthe et Marie, facile d'aller à Jérusalem, 5 kilomètres. Bon, après, il y a une petite montée, parce que Jérusalem est sur une montée, 800 mètres d'altitude. Bon, mais ceci dit, ce n'est pas si pire que ça. Après 5 kilomètres de marche, n'oublions pas que les Juifs étaient un peuple habitué à marcher, ils n'avaient que ça comme moyen de déplacement. Si vous habitiez le lac de Galilée, Génézareth, bon, 120 km, 130 km. Vous ne le faisiez pas en une fois, vous le faisiez en 10 jours, peut-être. Un peu moins. Mais à pied, toujours. Bah, ça permettait de passer le temps de chanter. Notre frère nous disait tout à l'heure, on chante dans les voitures, on chante quand on se promène. On fredonne quand on fait du vélo. Ça occupe. Mais on le chantait. Mais si on va un peu plus loin, c'était un voyage non négligeable. Isaïe, déjà, au chapitre 30 de son livre, verset 9, disait « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, pour vous rendre à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. » Pour vous rendre à la montagne de l'Éternel, c'est le mont Sion, vers le rocher d'Israël, Jérusalem. Donc déjà à l'époque d'Isaïe, vous chanterez. Mais à l'époque d'Isaïe, c'est quelques siècles en arrière, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Isaïe? On a déjà eu après, il y avait déjà eu la rupture entre Israël et Juda. Israël a été dispersé par les Assyriens. Quelques années après, mettons un petit deux siècles après, moins de deux siècles après, Juda a été dispersé lui aussi. On a retrouvé des Juifs sur tout le pourtour méditerranéen. Est-ce que la sainte convocation de l'Éternel dans Deutéronome 16 avait changé? Non. Est-ce que Dieu a changé? Dieu est éternellement le même. Alors si, psaume 20, si on va jusqu'au psaume 20, versets 5 et 6, en retournant dans le psaume. Je vous l'ai mis à l'écran, mais vérifiez, parce qu'on ne sait jamais, je peux me tromper. C'est le but, hein, vérifier toujours. C'est le bon? Je n'ai pas dit de bêtises? Verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. » Psaume 120, verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. » Qui peut me dire où est Méchec? En Assyrie. C'est marqué dans la note de bas de page?
Non, parce que je
suis. Ah ben voilà. Très bonne réponse. Je vais vous montrer à peu près où c'est. On a ici une carte du pourtour méditerranéen. La Syrie est donc à droite. Méchec, c'est tout là-haut, à côté de la mer Noire. Alors, pour vous donner un aspect un peu plus moderne, voici Google Maps. Il fait des bonnes choses de temps en temps. Ici, vous avez Jérusalem. Le cercle bleu, c'est Méchec. Et il faut qu'ils viennent à Jérusalem, à pied. C'est pas à côté. Si vous êtes un juif pieux, vous devez aller à Jérusalem. Petite information, en ligne droite, 1300 km. Le plus haut sommet, 2550 mètres. Ils n'ont pas les équipements qu'on a aujourd'hui, là. Ils ont des petites babouches, là, puis... Pour passer les cols qui sont associés, c'est peut-être pas le meilleur moment. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ils ont des brigands dans les montagnes. Leur sécurité n'est pas assurée. Non seulement la météo n'est pas pour eux, mais la vie est suspendue à... Oh, il y a des brigands. Admettons qu'ils coupent pas en ligne droite. Par où faut-il passer? Peut-être par la petite vallée qui va se situer ici, qu'on voit. Oh là, c'est pas très long, là. On va dire deux, je l'ai compté, à peu près. Enfin, un peu plus de 1600 km, 1700. Toujours à pied. Avec toujours des sommets à passer, parce que ça doit être une vallée, c'est toujours les sommets. Donc toujours des attaques. Puis si vous êtes courageux, vous faites le tour par la côte. Il ne faut pas être pressé, 3900 km à faire à pied ou en bateau. C'est pour ça que les vacances. Hein. Alors l'avantage, c'est qu'ils commencent à la fête des huttes et ils arrivent pour Pessah l'année d'après. Mais on rigole. Mais imaginez un juif qui décide d'être pieux et de se rendre à Jérusalem. Il sait qu'il va rencontrer des brigands. Il sait que les conditions de route ne vont pas être les meilleures qui soient. On n'est pas encore à l'époque romaine, là. À l'époque des psaumes 120, là. On n'est pas à l'époque romaine. Les routes ne sont pas gardées par les soldats romains. Il n'y a pas la Pax Romana. Quelles sont les chances d'arriver vivant sur place? Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? Je tourne mes yeux vers l'Éternel. Ils s'attendent à Dieu. Et ils prennent la route quand même pour y aller, parce qu'ils partent quand même de Méchec. Ils le disent dans le psaume. Ils partent de Méchec pour aller à Jérusalem. Eux, ils sont prêts à affronter. Posons-nous la question pour nous. Nous, c'est facile, on prend la voiture. Il y a peut-être des parallèles à faire. Mais je suis sûr que toutes les nuits, ils avaient peur. Parce qu'ils dormaient. Ils dormaient certainement pas des deux yeux. Ils dormaient d'un œil parce que d'abord, un, ils devaient avoir froid. Deux, ils devaient se demander quand est-ce que je vais être attaqué. Alors tout ce qu'ils espéraient, c'est se retrouver en groupe pour être de plus en plus nombreux, pour assurer une sécurité relative. Mais je pense qu'ils devaient prier. Prier, chanter, chanter, prier jour après jour, nuit après nuit. Ils n'avaient qu'une solution, se tourner vers Dieu. Est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Psaume 121:8. Ce n'était pas simplement quelque chose qu'on marque sur une carte, qu'on dit à quelqu'un comme une formule de politesse. Il fallait qu'il s'accroche par la foi. Est-ce que nous, on est prêts à s'accrocher par la foi à ça? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, comme eux le faisaient? Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à aller à pied entre Montréal et Fermont, à peu près 1600 km? Est-ce qu'on est prêt? Ah oui, puis faut revenir, et mais faut revenir après. Faut y aller, puis revenir. Trois fois par an. Faut faire trois fois par an, il y a trois fêtes officielles. La question est à se poser. La réponse doit être entre vous et Dieu. Moi, je ne donne pas la réponse, je pose les questions. Mais y a-t-il des parallèles dans nos vies? On a répondu, d'où partait-il, où allait-il? Et y a-t-il des parallèles pour nous? Est-ce qu'on peut en trouver? Je suppose que vous en avez déjà fait et déjà trouvé un certain nombre. Déjà, j'ai marqué ici le voyage des pèlerins. Il y a un certain livre qui s'appelle Le voyage des pèlerins de John Bunyan, qui parle de nos vies personnelles. Nous sommes des pèlerins. Éphésiens 2, 19 nous dit quoi? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints membres de la famille de Dieu. Ça, c'est notre citoyenneté. Nous avons un passeport du ciel. Ici, nous sommes dans une ambassade de Dieu. Parce que nous sommes ici entre frères et sœurs de la famille de Dieu. Nous sommes dans l'ambassade de Christ ici à Saint-Félicien, Robertval. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires étrangers sur terre. Nous ne sommes plus des terriens au sens propre. Nous sommes citoyens du ciel et nous résidons sur terre. Mais ceci dit, nous marchons sur terre. Nous vivons sur terre. Nous marchons sur terre. Mais nous allons où? Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en marche jour après jour vers le ciel. Combien de temps va durer cette marche? Va-t-elle durer 5 km comme entre Béthanie et Jérusalem? Va-t-elle durer 3600 km comme entre Méchac et Jérusalem? Va-t-elle durer 5000 ou 6000 comme entre l'Espagne Et Jérusalem, comme dit l'apôtre Paul quand il va en Espagne, il y est allé, malgré tous les risques. On ne le sait pas, mais on sait qu'on a un voyage à faire sur terre. Entre notre conversion et le ciel. Est-ce que d'après vous, ce voyage est très facile ? Est-ce qu'on le fait en Rolls-Royce avec un chauffeur et quelqu'un en livrée qui nous sert tous les matins, tous les midis, tous les soirs ? Je pense que c'est très souvent proche de la marche à pied. Enfin, théoriquement. Parce que si c'est toujours en Rolls-Royce dans votre vie, peut-être faut-il vous poser des questions. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Elle est trop confortable. Parfois, vous pensez aussi qu'on peut penser qu'on est seul. Mais regardez bien ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Le chemin qu'on fait vers le ciel ne sera jamais un chemin facile. Il sera plus près de la marche entre Madrid et Jérusalem que celui entre Béthanie et Jérusalem. Parce que si on imite Paul ou si on imite le Seigneur, Paul étant l'imitateur du Seigneur, on avait une promesse associée à vivre avec le Seigneur. C'est que s'ils ont persécuté notre Seigneur, je pense que le monde ne va pas nous aimer bien fort. S'ils nous aiment bien fort, c'est parce que nous, on aime le monde. Mais si on aime le monde, on a un problème à se poser, nous dit Jean dans sa première lettre. Il faut qu'on s'interroge. Et je vous poserai une question plus tard. De fait, frères et sœurs, dit le même apôtre Paul dans la deuxième chapitre de Thessaloniciens, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Si nous ne sommes pas rejetés, si nous ne sommes pas différents des gens du monde, posons-nous des questions. Être membre de l'Église, être membre de l'Ecclésia, c'est être mis à part. Exactement comme le peuple juif qui a été mis à part par Dieu, mais qui était rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas fait son travail en tant que peuple mis à part. Pour être différent des autres, nous devons être différents des autres. Et donc notre chemin de vie, depuis notre conversion jusqu'à notre comparution devant Christ, malheureusement, il va être semé d'embûches. Et ça, ce n'est pas une prédiction que je fais. C'est malheureusement une certitude. Mais par contre, jour après jour, 24 heures après 24 heures, nous nous rapprochons de notre Seigneur. Nous nous rapprochons du ciel. Mais ça, c'est une certitude, par contre. Comme nos amis, nos frères juifs à l'époque, enfin nos frères juifs, excusez-moi du mot, je ne peux pas dire frères. Comme les Juifs qui, pas après pas, se rapprochaient de Jérusalem, nous, pas après pas, journée après journée, nous nous rapprochons du ciel. Et ça, c'est une certitude, par contre. C'est une certitude que Dieu nous a préparé une place, une demeure là-haut pour nous recevoir. Il nous attend. Il nous attend pour un grand festin, en plus. Et puis, on ne sera pas malade ce jour-là. On mangera ce qu'on veut, on ne sera pas malade. Et on grossira plus. Ça va être le fun. Alors, depuis notre conversion, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, la conversion, c'est quoi ? La première chose qu'on a fait quand on s'est converti, on s'est repenti. C'est ce que dans Acte 2, dans le premier message de Pierre, la première question que posent les Juifs qui écoutent Pierre, que ferons-vous ? Que ferons-nous ? Et Pierre répond : repentez-vous. C'est la première chose qu'il demande, repentez-vous. Et après, c'est baptisé, et soyez baptisés. Et Paul dira quoi, lui ? Si tu reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu confesses dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelque part, notre vie commence à ce moment-là, le jour où nous acceptons que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, que nous l'acceptons dans nos vies, qu'il devient le Seigneur de nos vies, que nous devenons ses serviteurs, ses doulos, ses esclaves, que nous nous attendons à lui jour après jour, on commence notre marche vers le ciel. Et je vais reprendre trois versets que j'ai pris tout à l'heure. Lequel prenons-nous en premier ? Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Je ma question. Je suis dans la joie comme on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on est dans, je dirais dans des questionnements, lequel de ces versets peut-on prendre en premier ? En permanence dans nos vies, moi, je dirais personnellement, après vous prenez le choix que vous voulez à l'intérieur de ces trois versets, je prendrai le 121.1. Pourquoi ? Je lève les yeux vers les montagnes. Parce que je sais que ça, c'est là-haut que viendra le secours. Je lève les yeux vers Dieu et je sais que le secours me vient de Dieu. Parce que le verset, psaume 120, verset 1, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié. Et il m'a répondu. Donc je me tourne vers Dieu en premier. Et il me répond. Mais ce qui est important, c'est le 122. Premier verset du chapitre du psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Pourquoi ? On crie à l'Éternel. Il peut nous répondre directement. Mais il peut répondre par nos frères et sœurs. Quand vous êtes dans un pays étranger, que tout va mal, où vous allez ? À l'ambassade. C'est logique, il me semble, d'aller à l'ambassade. Quand tout va mal, que Dieu ne vous répond pas directement ou vous ne comprenez pas sa réponse, vous allez voir vos frères et sœurs. Vous allez à l'ambassade du Seigneur, voir vos frères et sœurs, votre pasteur, vos anciens, d'autres frères et sœurs. Partagez avec eux, demandez de prier avec eux. C'est ce que nous dit le Seigneur dans ces trois versets. Criez à lui, espérez en lui, et si vous ne trouvez pas sa réponse, parce que vous ne l'entendez peut-être pas. Allez vers vos frères et sœurs. Allez à l'ambassade du Seigneur. Il a créé son Église pourquoi ? Pour que justement il y ait des frères et sœurs qui puissent vous soutenir, vous partager, qu'ils puissent vous démontrer son amour. Parce que c'est le rôle des frères et sœurs de démontrer l'amour de Dieu. Dieu vous parle directement, agit son amour autour de vous, mais pour le voir, il utilise des frères et sœurs pour vous démontrer son amour. C'est sa manière de vous aimer, de vous répondre, vos églises. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, il faut cesser de subir notre vie, même avec le Seigneur. C'est facile de subir sa vie. On est là, on suit notre petit chemin de vie, jour après jour. Oh oui, on a une relation avec le Seigneur, on ouvre notre Bible tous les matins, on fait notre culte personnel, on prie, on a notre liste de prières qu'on fait tous les jours. Puis vient le soir, je viens vous interroger, qu'est-ce que tu as lu ce matin ? Bon, et puis on a vécu notre vie, notre petite journée, puis on commence le lendemain. Puis on a des épreuves, puis on les vit, puis on commence à se plaindre. puis les épreuves passent. Est-ce que c'est une vie de victoire? Non, c'est une vie qu'on subit. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Il veut qu'on vive avec lui. Qu'on vive tous les jours avec lui, avec un grand V, avec notre Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur des autres. C'est notre Seigneur. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il veut qu'on vive avec lui. Pas qu'on subisse la vie. Il veut qu'on vive en lui. Qu'on demeure avec lui, nous dit Jean 15. Si on ne demeure pas avec lui, la vie, ce n'est pas une vie. On la subit. Si vous subissez votre vie, vous allez vous plaindre. Vous allez murmurer comme Israël faisait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on murmure contre Dieu? Le Saint-Esprit qui est là-haut, là, si on prend la lumière qui est au-dessus de nous, là, elle va s'éteindre doucement. Puis à un moment, le Saint-Esprit il aura disparu de vos vies. Il ne vous entendra plus. Nous avons donc tout un avantage. Et je voudrais vous encourager à lire ce verset, Nombre 23, 19. Oui, il s'applique à Israël, mais il s'applique à vous aussi. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Dieu tient ses promesses. Qu'il dit dans les psaumes, il va le faire. Pour vous, pour moi, pour nous tous, pour vos familles qui connaissent le Seigneur, il va tenir ses promesses. Où j'en suis dans le temps, je m'en souviens plus. C'est bon? Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Nous avons souvent tendance, et ça c'est une vie normale de chrétien, peut-être, à attendre de tout avoir avant de commencer quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre, d'avoir tout de prêt pour commencer une chose? Comme chrétien, ça nous arrive, hein? On attend de tout avoir les éléments en disant, bon, je vais faire ça, mettons, je vais suivre ça, ou je vais aller aider mon voisin, ou je vais aller aider mon pasteur. Quand j'aurai ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'aurai du temps, j'aurai fait telle étude biblique, j'aurai fait ça, j'aurai fait ça, j'aurai fait ça. Là, je pourrais l'aider. C'est jamais arrivé, hein. Vous pensez jamais ça, c'est certain. C'est dans ma tête que ça arrive comme ça. Mais parfois, il faut peut-être commencer la chose pour que Dieu puisse agir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des croisières? Bon, si le paquebot ne quitte pas le port, si on ne retire pas les OCR, est-ce qu'il peut faire commencer sa croisière? Non, hein, il va rester OK. Hein. C'est peut-être pareil dans nos vies. Hein. Si on ne commence pas à avancer, ça, on va rester assis sur notre chaise. Là. Ceux qui prennent l'avion, s'il ne décolle pas, ça fait quoi? On reste, hein, c'est plate. Hein. Est-ce qu'un parachutiste peut compter ses sauts en parachute s'il ne saute pas? C'est plate. Hein. Bon, généralement, on les aide un peu. Hein. Ils sautent. Mais c'est ça la vie. Si on ne commence pas, Dieu ne peut pas nous aider. Dieu n'est pas un Dieu qui va vous prendre puis vous jeter par la porte de l'avion. En disant, saute, puis je vais te donner le parachute après. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu va vous accompagner jour après jour. D'accord? J'ai sauté en parachute, j'avais toujours deux parachutes sur moi au début. Comme ça, si le premier ne marchait pas, j'en avais un deuxième. OK? Ça n'a pas empêché que j'aie des accidents, mais ce n'est pas grave, ça, c'est une autre histoire. Mais Dieu nous demande toujours d'être prêt et d'avancer. Et progressivement, il donne les choses. Vous savez, quand on est venu ici au Québec, on est parti loin de chez nous. On a laissé un de nos enfants en France. On a fait confiance à Dieu. Il en a pris soin. On a une belle petite fille avec nous maintenant qui vient de France. C'est le fruit de notre fils aîné qui est resté en France. Il en a pris soin. Mais c'est pas facile. C'est comme ça. Dieu le voulait. Et je vais vous dire pourquoi j'ai confiance en Dieu. Je connais un homme à qui on a prescrit une maladie bizarre qui s'appelle une neuropathie dégénérative. Quand on lui a prescrit ça, il ne savait pas qu'est-ce que ça mangeait cette chose. On lui a dit, bon, c'est dégénératif, c'est pas grave, c'est pas pressé, ça arrivera un jour. Puis progressivement, la neuropathie a fait son chemin. Elle a progressé à une certaine vitesse. On a augmenté les pilules, on a augmenté ci, on a augmenté ça. Puis un jour, on lui a dit, ben, cher monsieur, on ne peut plus vous donner de pilules pour la douleur. Donc, il va falloir endurer ça. Puis, il va falloir qu'on vous retire votre permis de conduire parce que vous ne pouvez plus conduire à cause de votre maladie. Vous avez deux choix. Soit vous le prenez et vous le subissez. Soit vous le prenez, vous le déposez au pied de la croix. Vous dites, Seigneur, occupe-toi de ça parce que moi, je ne peux pas tout seul. Mais ça s'appelle vivre tous les jours avec le Seigneur. Mais si vous le subissez, là, vous mettez déjà deux pieds dans la tombe, puis le reste ne va pas tarder. Votre vie va s'arrêter ce jour-là. Mais si vous prenez ça, vous le déposez au pied de la croix et vous vivez avec le Seigneur, vous vivez avec le Seigneur. Et lui le sait, et il le savait pourquoi. Parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit toutes choses. On appelle ça la providence de Dieu. Alors la providence de Dieu, je vais vous la définir dans quelques instants. Mais il ne faut pas confondre la providence de Dieu avec son omniscience. Dieu connaît toutes choses. D'accord ? Il voit tout en même temps. Il a des projets qu'il veut réaliser. Il a des... Comment je dirais ça? Je bois un coup. Ça y est, j'ai perdu mon mot. Pas des projets, celui-là, on peut le dire en projet. Éphésiens 2. Fadis, il a des... Ah, crotte. C'est pas des projets, c'est l'autre. Des œuvres qu'il a prévues et qu'il veut qu'on le fasse. Qu'il a préparées d'avance. Voilà, merci. Et donc, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, il veut qu'on les fasse. Il veut qu'on les pratique. Mais ça, il sait à l'avance tout ce qui va se faire. Mais ceci dit, il veut qu'on les pratique. Donc il va faire en sorte qu'on puisse les pratiquer. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Il va tout mettre en œuvre pour que le plan global qu'il a préparé s'accomplisse. Ça veut dire qu'il va mettre en œuvre des choses pour que ça s'accomplisse. Si, je vais prendre un exemple absurde, excusez-moi, mais vous le comprendrez mieux que moi. Si vous avez besoin d'avoir un bas blanc et un bas rouge au pied, de manière à ce que vous entriez en conversation avec quelqu'un et que cette personne vienne au Seigneur par votre témoignage de vie, Dieu va faire en sorte que ce matin-là, vous vous trompiez, que vous mettiez un bas rouge et un bas blanc. Ça va vous paraître stupide de mettre ça. Mais Dieu, dans sa tête, à lui, c'est nécessaire pour que la personne que vous allez rencontrer puisse rentrer en conversation avec vous. Puis à d'autres moments... Ça n'aura pas de sens. Ça, c'est la providence de Dieu qui fait en sorte que son plan à lui, qui est établi de tout temps, puisse se réaliser. Il va faire en sorte qu'en faisant ça, il se réalise. Ça ne veut pas dire qu'il maîtrise toute chose. Mais Dieu dit d'ailleurs dans sa parole, Jésus, le Fils de Dieu, dit lui une chose simple. Je vais le mettre avant. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Dieu sait combien de cheveux vous avez. Et pourtant, on en perd tous les matins. Hein. Enfin, sauf certains. Mais on en perd tous les jours. Donc, quelque part, la providence de Dieu fait en sorte que... Alors, Dieu a des projets. Mais aidez-le dans sa providence. Laissez-le vous diriger. Cherchez sa volonté. Vivez avec lui. Vivez pas à côté de lui. Vivez avec lui pour l'aider. Dans l'absolu, comme Jésus a dit, il pourrait faire chanter les pierres pour le louer. Il pourrait le faire. Il a décidé de prendre des hommes pour accomplir son plan. Soit, il l'a décidé. Nous avons un privilège, mais nous avons des devoirs. Je vous rappelle qu'un doulos, un serviteur, il n'est pas libre. Il est libre dans le cadre que lui fournit son maître. Et ce cadre-là, c'est de chercher la volonté de son maître et de tout faire pour lui faire plaisir. Parce que c'est comme ça. Un jour, une jeune femme qu'on a accompagnée ne savait pas pourquoi lire sa Bible. Et finalement, mon épouse lui a dit, si tu aimes Dieu, tu vas la lire parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas une obligation de lire sa Bible. Mais si tu aimes Dieu, tu vas lire ta Bible. Parce que tu as envie de le connaître. Tu vas le faire par amour. Ce n'est pas une contrainte, c'est par amour. Tout ce qu'on doit faire, c'est par amour pour notre Seigneur. Pas par contrainte. La contrainte, c'est vivre à côté du Seigneur. Par amour, c'est vivre avec notre Seigneur. Ce qui n'est pas la même chose. Pour conclure, j'ai ce verset-là qui me trotte dans la tête. Alors, je vous le partage. D'accord ? Il n'est pas jeune, ce verset-là. Hein ? D'accord ? C'est du Deutéronome. On va dire un bon 4000 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais il me trotte dans la tête, alors je vous le partage. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Oui, c'est pour Israël. On est d'accord ? Mais je pense que ça m'a parlé quand j'ai lu. Parce que l'abondance générale, ça s'appelle du gras dur au Québec. Puis parfois le gras dur, on est dedans. Et je pense qu'on doit réfléchir tous. Moi le premier, est-ce que je fais les bonnes choses quand je vis dans le gras dur ? Parce qu'il y a un autre proverbe qui s'appelle Proverbe 30, verset 8, je pense, qui dit « Ne me donne ni richesse ni pauvreté, de peur que dans la richesse je ne vole et ne salisse ton nom. Non, dans la pauvreté je ne vole et salisse ton nom, et que dans la richesse je ne te... je ne t'oublie. » C'est exactement la même chose. Nous pouvons facilement oublier notre Seigneur dans le grand Dieu dans lequel nous vivons. On pense souvent à nous, à des frères ailleurs. On soutient des frères c'est en Birmanie, au Myanmar, nom actuel de la Birmanie. Eux, c'est tous les jours qu'ils doivent faire attention à leur vie. Les chrétiens ont une cible sur le front. En Inde, c'est pareil. Et pourtant, on a un ami qui part là-bas régulièrement pour les aider à annoncer l'Évangile. Il a 80 ans. Et il y a encore 5 ou 6 ans, il se cachait sous une bâche pour aller porter l'Évangile. Je pense qu'à 75 ans, on a le droit là un peu de retraite. Mais il continue à y aller 3 fois par an. Il en a 80. Et c'est un Américain. Je pense que Il m'a dit une fois, je porte un bracelet. Il m'a dit, quand ce bracelet sera réalisé, j'arrêterai d'évangéliser. Sur ce bracelet, c'est marqué jusqu'au bout du monde. À la fin de Matthieu 28, 19. Voilà, un jour, on lui a posé, l'église qu'il soutient, il dit, est-ce que tu prends ta retraite bientôt? Non. Tout le monde n'est pas évangélisé. Hein? Un bel exemple, oui. Bien entendu, il y va avec sa femme. Hein. Il y va pas tout seul. Alors, ma conclusion finale sera celle-là. Nous avons été renouvelés par Dieu, transformés par Dieu. Pour faire quoi ? Pour discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation que nous avons subie les uns les autres, c'est pour nous fournir la force de l'amour de Dieu pour faire face à l'adversité en gardant les yeux fixés sur lui. C'est pas simplement pour faire beau dans un verset, c'est pas simplement pour mettre sur une plaque à côté de la porte. Ça, c'est comme « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Ce n'est pas un petit verset à mettre sur une plaque non plus. C'est un verset à se mettre sur le cœur, tatoué, à faire. Romains 12, c'est pareil. S'il nous a transformés l'un et l'autre, c'est pour faire son œuvre, pas pour regarder les autres faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons tous une capacité pour aider notre Église. Tous ne savent pas prêcher. Tous ne savent pas enseigner, mais tous, individuellement, nous pouvons prier pour nos anciens, nos pasteurs. Tous, nous pouvons faire un peu de ménage, sauf certains, bien entendu, qui sont malades ou qui ne peuvent pas physiquement. Mais tous, individuellement, nous avons un don, comme c'est marqué dans l'Épître aux Corinthiens, dans la deuxième aux Corinthiens, tous, nous avons un don que le Seigneur nous a donné pour la marche de son Église. Alors, quand l'Église a des besoins, levons la main. Nous avons tous des dons pour servir le Seigneur d'une manière ou des autres. Le minimum, c'est la prière. Et ça, c'est puissant. Ça renverse des tours, ça fait tomber des murailles. Rappelez-vous Jéricho. Alors, merci à vous et je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous accompagne.